Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Louis. Nova.
Quand j'ai pas besoin de parler, en fait, je parle pas spécialement. C'est-à-dire que, oui, dans un cadre amical, j'aime bien discuter. Enfin, je suis pas non plus complètement transparente ou en retrait. Mais dans un contexte où je ne connais pas les gens, par exemple, dans un groupe nouveau, clairement, je suis vraiment une des personnes les plus discrètes et les plus en retrait. Donc, c'est vrai qu'il y a cette différence. Et souvent, il m'est souvent arrivé d'être dans des groupes de personnes inconnues et d'avoir des gens parmi ces personnes qui découvraient après coup mes activités professionnelles et qui étaient franchement estomaquées parce qu'ils se sont rendu compte que j'en avais jamais fait mention, que j'étais restée assez en retrait ou très discrète sur mes activités professionnelles, en tout cas sur leur visibilité.
Rokhaya Diallo est une journaliste bien connue de la scène médiatique en France, mais désormais aussi des États-Unis, où elle tient une chronique mensuelle pour le Washington Post. Elle explore tous les formats, des plateaux télé populaires comme Balance ton poste, à ceux plus statutaires de LCI. De la BD, elle en sort une en cette fin d'année, titrée « M'explique pas la vie, mec », au documentaire, comme « Où sont les Noirs », diffusé en 2020. Un éclectisme au succès tel qu'en ce mois de décembre, le magazine américain Politico l'a fait figurer dans son classement des personnalités européennes les plus influentes. Rokhaya Diallo prend la parole publiquement depuis près d'une vingtaine d'années sur les sujets les plus inflammables du débat politique en France. Sur le racisme, l'universalisme, sur l'islamophobie, le féminisme. Elle qui est l'une des rares femmes noires visibles dans les médias, elle a essuyé quantité de violences verbales sur les plateaux. Mais elle garde toujours ce calme époustouflant, comme si les mots ne lui manquaient jamais. Je lui ai demandé comment elle avait appris à manier ainsi la parole et comment elle faisait ainsi front. Je suis Charlotte Pudlowski, vous écoutez Fracas.
Quand je suis dans un groupe, je suis quand même quelqu'un toujours d'assez réservé et d'assez en retrait. Je suis pas quelqu'un qui prend la parole pendant les dîners, qui affirme des choses ou qui est au centre de... En tout cas, qui cherche à s'exprimer de manière à être au centre de l'attention. Et je pense que ce qui m'a vraiment permis de libérer ma prise de parole, c'est le fait de tout simplement avoir à parler sur des sujets que je trouvais importants. C'est-à-dire que je pense que j'ai été complètement dépassée par le fait que je voulais absolument déclarer des choses sur ces sujets-là. Et que du coup, tout d'un coup, la question du regard des autres, la question du retrait, de la réserve, est devenue secondaire dès lors qu'il m'est apparu en fait capital de prendre la parole sur ces sujets-là.
À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que vous vouliez professionnellement prendre la parole sur certains sujets et que ces sujets-là, ce qui comptait pour vous, c'était l'antiracisme, c'était le féminisme intersectionnel? À quel moment vous vous êtes dit « mon outil, c'est la parole et je vais l'employer pour ces sujets-là »
Bah, disons que je l'avais pas forcément formalisé comme ça au départ. Ce que je m'étais dit... Et ce que nous nous sommes dit d'ailleurs collectivement avec Les Indivisibles, qui est une association que j'ai fondée, que j'ai cofondée en 2006-2007, c'est que les paroles des personnes minoritaires, qu'elles soient originaires de banlieues populaires ou qu'elles soient noires, d'origine maghrébine, asiatiques, etc., étaient sous-représentées dans l'espace public médiatique et que tous les débats qui les concernaient, je pensais notamment au débat sur qui avait suivi les révoltes à Clichy-sous-Bois en 2005 et puis l'année précédente sur le port du foulard à l'école, et ces débats se passaient sans les personnes concernées. Et c'est vraiment ce qui a été un des déclics qui nous a donné envie de créer l'association. Mais à l'époque, il s'agissait vraiment de prendre la parole collectivement en imposant de nouvelles voix. Mais au départ, nous, on le faisait par écrit parce que à la fin des années 2000, les possibilités qu'on avait, c'était surtout d'écrire sur un blog ou de poster des vidéos. On avait fait des petites vidéos parodiques sur YouTube. Mais c'était pas autre chose, en fait. C'était vraiment de se dire qu'il faut qu'on fasse entendre des voix alternatives. Donc, il y avait vraiment ce moteur de l'injustice et de se dire, mais on peut pas parler de nous en permanence sans que nous n'ayons à aucun moment la possibilité de dire quelque chose sur notre propre condition. Je me suis rendu compte aussi du fait que la rhétorique, que la maîtrise de la langue, c'était aussi un moyen pour des personnes qui n'étaient pas forcément identifiées comme porteuses du langage légitime, de déconstruire, en tout cas d'arriver en opposition avec tous les stéréotypes qui pouvaient nous être associés, et que ça pouvait aussi surprendre. Mais ça, j'en avais pas conscience en amont, puisque ces stéréotypes-là n'étaient pas les miens. Moi, pour moi, j'avais pas de raison de penser que parce qu'on venait de banlieue ou parce qu'on était noir, on s'exprimait moins bien que le reste de la population. Mais c'est ce qui, effectivement, pesait sur nous en termes de préjugés. Et donc, il n'y avait pas de raison qu'on n'ait pas la possibilité de dire autre chose que ce qu'on entendait habituellement.
Et ce que vous dites sur le fait d'être une femme noire, alors qu'elles sont globalement extrêmement invisibilisées dans l'espace médiatique en France, comment cette identité-là, elle joue sur votre parole médiatique ?
Alors, je pense qu'on coupe la parole en fait à toutes les femmes, et que je crois que ça se voit pour ce qui me concerne, parce que je suis une des rares à signifier le fait qu'on coupe la parole et à reprendre la parole en disant « cessez de me couper la parole, je tiens un propos ». Généralement, en fait, ça se fait de manière quasi invisible, parce qu'il n'y a pas vraiment de marquage de cette prise de parole ostensible et vraiment qui interrompt de manière successive. Donc je pense, enfin, en regardant les débats, je suis aussi souvent la seule femme autour de la table, donc ça joue. Après, c'est difficile de faire la frontière entre ce qui se joue parce que je suis une femme et ce qui se joue parce que je suis aussi une personne noire. Ce que je constate, si on parle de la manière générale dont ma parole est appréciée, c'est que je pense qu'elle est disqualifiée, dans le sens où on va souvent me considérer comme une militante, plus que comme une professionnelle, en fait, en tant que journaliste, en tant que réalisatrice, en tant que, je sais pas, scénariste de BD ou...
En tant qu'intellectuelle, comme on a beaucoup qualifié un certain nombre d'hommes de la génération de Pascal Bruckner, qui font les mêmes choses que vous et qui sont globalement juste des intellectuels.
Ou même de ma génération, hein. Il y a des femmes blanches de ma génération qui sont considérées comme des intellectuelles alors qu'elles font la même chose que moi. C'est-à-dire qu'elles sont engagées, je pense à des femmes comme Natacha Polony, à des femmes comme Caroline Fourest. Je veux dire, moi aussi je vis du travail de mon cerveau. Donc en plus, moi je le vis dans plusieurs langues, contrairement à d'autres. Donc je pense que j'ai fait plus de choses que ces femmes-là, que ce soit sur le plan national et international. Mais voilà, en fait, je n'ai pas cette reconnaissance. Je dis pas que je cours après, hein, mais je constate que mon travail n'est pas perçu de la même manière. C'est-à-dire que mon travail est plus appréhendé comme étant issu de mes émotions que comme étant issu de mon cerveau. Et en fait, comme étant le fruit d'une pensée, d'une réflexion, etc. Donc ça, c'est vraiment caractéristique au fait que les femmes noires ne sont pas perçues comme des êtres pensants, comme des êtres intelligents, comme des personnes qui intellectualisent des questions. Et donc systématiquement, quand je vais produire une pensée sur une question, ça va être tourné en dérision. Quand j'ai parlé de la question de la couleur des pansements qui symbolise en fait l'invisibilisation des corps non blancs dans l'espace public, le fait que l'esparadrap est la couleur dite chair, mais chair de qui, effectivement, et qu'on peut étendre à tout, aux chaussons de danse, à la couleur des oreillettes, à un certain nombre de produits du quotidien qui montrent juste que le corps noir n'est pas considéré comme un corps par défaut. Donc dire ça, en fait, c'est tout d'un coup, on me réduit en fait à l'anecdote au lieu de considérer que oui, je pose une réflexion qui n'existait pas, en fait. Avant que je parle de ça dans l'espace public, personne n'avait jamais dit ça dans l'espace public français. Donc j'ai posé une réflexion qui est à la fois novatrice, qui est inédite, qui lance un débat national, mais on va encore me dire que je crée une polémique au lieu de dire que oui, j'ai produit une pensée originale dans l'espace public français qui a un écho au-delà de nos frontières. Donc il y a cet aspect-là qui est spécifique au fait que je sois une femme noire, et vraiment par rapport aux femmes de ma génération, je trouve qu'il y a quand même un traitement différent. Caroline Fourest, en fait, j'ai eu l'occasion de faire un débat avec elle au début de l'année, et j'ai donc, pour préparer ce débat, j'ai lu son livre. Et dans son livre, elle parle de moi. Et pour me présenter, elle dit « Rokhaya Diallo, activiste bien connue et mannequin boucle d'oreille ». Et ça, pour moi, en fait, c'est symptomatique du fait de nier, en fait, la capacité intellectuelle des femmes noires et de les réduire à leur plastique. Parce que ça veut dire quoi, en fait, mannequin boucle d'oreille, quand on parle d'une femme qui fait le même métier que vous ? Parce que, effectivement, j'aime bien la mode et que je ne m'en cache pas. C'est encore, et de la part d'une femme qui se dit féministe et, en fait, qui me réduit à un corps, parce que vraiment, mannequin, c'est le corps, en fait, et c'est pas la parole. Et activiste, c'est l'idée, et je ne nie pas la qualité des activistes, hein, mais activiste, c'est quoi ? C'est l'idée de l'agitation, et c'est pas l'idée, encore une fois, du fait de penser les choses. Et que ça vienne d'une femme qui se dit féministe, je trouve que c'est très symptomatique, justement, du fait que, en tout cas, ce qu'elle a voulu affirmer, c'est que je n'appartenais pas à ce même cercle que celui dont elle se revendiquait, alors même que c'est absolument, enfin c'est faux. Donc je cherche pas forcément cette reconnaissance, mais je trouve que cette manière de qualifier une femme noire qui produit de la pensée, c'est encore une fois faire appel à des clichés qui viennent de Josephine Baker en fait. Et l'autre aspect, c'est aussi qu'on va systématiquement associer ma parole à celle d'un groupe. C'est-à-dire que soit je parle au nom des Noirs, soit on me disqualifie en me disant « elle ne représente pas les Noirs ». Alors qu'à aucun moment de ma vie, j'ai prétendu représenter qui que ce soit d'autre que moi-même. En dehors du moment où j'étais présidente de l'association Les Indivisibles, et là je représentais mon collectif, mais à part ça, j'ai jamais dit que je représentais les Noirs. Et ce que je trouve étrange, c'est que je suis autant féministe qu'antiraciste, on ne m'a jamais dit « Rokhaya Diallo représente très mal les femmes ». Parce que je suis trop noire, en fait, pour que mon corps soit considéré comme suffisamment universel pour avoir ne serait-ce que l'ambition de représenter les femmes de France. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que on me soupçonne d'avoir cette arrogance de représenter tous les noirs de France, mais on ne m'attribue pas le fait que ma féminité puisse être la féminité de toutes les femmes.
On vous ramène aussi régulièrement, peut-être plus que d'autres, à des propos que vous avez pu tenir dans le passé. Et je pense notamment à cette pétition contre le soutien à Charlie en 2011, donc 4 ans avant les attentats, au moment où les locaux avaient été incendiés par un cocktail Molotov. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ressort en permanence et que certains de vos opposants voudraient figer votre discours à un instant T.
Ce que je constate, c'est que quand on est une personne minoritaire, on n'a absolument pas le droit à l'erreur. Et je ne dis pas que la signature de ce texte était nécessairement une erreur, mais je peux dire que nous étions 20 à la signer et que parmi les autres signataires, personne n'a autant été poursuivi et rappelé au bon souvenir de ce texte qui n'était pas une pétition mais une tribune. Donc c'est déjà pas la même démarche. Donc en fait, il est entendu pour tout le monde que c'est une pétition aujourd'hui, mais c'était un texte en fait qui a été publié sur un site qui s'appelle Les mots sont importants et qui expliquait aussi dans le détail que oui, apparemment, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Claude Guéant, qui était un ministre quand même qui avait des propos racistes assez régulièrement, allait se déplacer très facilement pour aller soutenir Charlie Hebdo suite à un incendie qui était lié à un cocktail Molotov qui avait été lancé dans la nuit en l'absence des journalistes, fort heureusement, que sur un camp de Rome qui avait été brûlé en présence de ses habitants dans la même temporalité, à l'époque même où il menait une politique migratoire extrêmement violente. Donc c'est un propos qui, pour moi, avait un sens dans ce contexte-là. Et quand bien même, de toutes les façons, ce texte a été signé 4 ans avant. Donc je me rends compte qu'à la même époque, Guy Bedos avait dit de Charlie Hebdo qu'il crève. Bon, bah personne n'a considéré qu'il disait ça au premier degré et qu'il souhaitait sincèrement la mort des gens de Charlie Hebdo. Et c'est ce que je trouve vraiment déplorable, c'est que ce texte-là, maintenant, il date de 2011. On va être en 2021. Et je pense que si je suis toujours là dans l'espace public, j'en sais rien, mais en 2031, on en parlera encore. Et en fait, quelles que soient les choses que j'ai fait dans le passé, c'est toujours retourné comme quelque chose de négatif. Par exemple, j'ai interviewé Dieudonné dans le cadre de mes activités parce que je faisais une émission sur l'humour et les limites de l'humour. Bah oui, j'ai le droit d'interviewer Dieudonné, c'est mon travail de journaliste. Tout le monde l'a fait, il a été reçu chez Frédéric Taddeï, Eric Nolot a signé un livre avec Alain Soral. Voilà, mais moi, forcément, si j'interviewe Dieudonné, c'est nécessairement parce que j'ai la possibilité d'avoir aucune distance avec lui. Et j'ai aussi interviewé Christine Boutin. Et là, bizarrement, comme c'est une femme blanche, bien que conservatrice et clairement homophobe, ça, on ne le ressort pas. Parce que, je ne sais pas, parce qu'on ne se dit pas qu'il y a une complaisance, parce qu'on n'a pas la même couleur de peau, parce qu'elle est clairement de droite, etc. etc. Donc, c'est assez bizarre de voir comme on essaie de m'associer à des camps. J'ai absolument aucun droit à l'évolution. C'est-à-dire, si j'avais tenu des propos sur lesquels je souhaitais revenir auparavant, ou si je tiens des propos sur lesquels je me suis expliquée, ce texte que j'ai signé en 2011, je pense que j'en ai parlé partout, y compris dans un portrait quand même qui a fait la une de M, le magazine du Monde. Donc je pense que c'est quand même quelque chose de très mainstream. Et ben malgré ça, on va toujours me redemander pourquoi j'ai signé ce texte et comment, alors que j'ai délivré une explication extrêmement claire, quoi. Donc c'est que on est toujours associé à des clichés, à des faits passés dont on peut jamais se défaire. On a pas la possibilité. On a une image figée dont on peut jamais, jamais, jamais se défaire.
Il y a quelque chose qui est frappant aujourd'hui dans vos prises de parole et qui est très souvent décrit dans les médias, c'est le calme dont vous faites preuve, qui est d'autant plus frappant que vous avez souvent en face de vous des interlocuteurs, voire des opposants très, très remuants, parfois violents. Comment il est arrivé ce calme-là ? Est-ce que ça a toujours été votre manière de parler et de débattre, ou est-ce que c'est une stratégie que vous avez mise en place progressivement pour pouvoir prendre la parole et être entendu ?
Je me suis aussi découverte sur ce plan-là dans l'exercice du débat notamment. Et il n'y a aucune stratégie dans ma manière de prendre la parole ou de recevoir la parole agressive. Je suis d'un tempérament calme, en fait, au quotidien. Je ne suis pas quelqu'un qui m'énerve souvent. De manière générale, je suis pondérée. Et c'est vraiment mon caractère. Donc, c'est devenu un atout dans ce contexte-là. Mais c'est vraiment pas du tout quelque chose qui était calculé. Donc, c'est vrai que ça, je pense que ça amplifie l'agressivité qu'il y a en face. Parce que le but aussi, quand on agresse quelqu'un verbalement, c'est de lui faire perdre son calme et de la faire sortir de ses gonds afin que la personne soit discréditée. Même si j'estime que la colère n'est pas illégitime. J'apprécie vraiment qu'on me félicite pour le fait de rester calme, etc. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est facile pour moi. Et je pense pas que ce soit critiquable quand on n'est pas calme face à une agression. C'est normal, en fait. Je pense que c'est une réponse normalement humaine et normalement émotionnelle. Donc moi, j'arrive à garder mon calme parce que aussi, je suis concentrée. C'est-à-dire que oui, la patience, le calme, je les conserve parce que je suis dans un contexte professionnel. Dans ma vie quotidienne, si une personne me parle comme ça, ça ne dure même pas une minute. En fait, je coupe court à la conversation et je m'en vais. Je ne subis pas ce genre de conversation dans un autre contexte. Donc le fait d'être aussi dans un cadre professionnel fait que j'écoute, je me dis, bon ben voilà, je parlerai quand mon tour viendra. Et en fait... voilà, je laisse la personne parler. Et puis après, ce qui arrive aussi, c'est que souvent, les personnes qui sont face à moi ne sont pas des personnes pour lesquelles j'ai énormément d'estime. Donc, ça joue aussi. C'est-à-dire que oui, on est affecté quand les gens qui nous attaquent représentent quelque chose pour nous. Quand ils ne représentent pas grand-chose, moi, ça me fait de la peine pour eux, quoi. Mais en réalité, ils n'existent pas dans mon univers quotidien. Donc, ça aide aussi à prendre de la distance, quoi.
Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être face à quelqu'un et d'avoir... peur de sortir de vos gonds ou d'avoir du mal à garder votre calme? Est-ce que vous avez déjà été confrontée à des situations un petit peu différentes?
Disons que franchement, ce qui m'a vraiment, on va dire, plus déstabilisée récemment, c'est le fait d'avoir été accusée d'avoir armé les terroristes de Charlie Hebdo.
Par Pascal Bruckner.
Absolument, j'avais pas spécialement envie de prononcer son nom, mais je pense que c'est bien d'avoir, pour les gens qui nous écoutent, d'avoir l'information. Oui, j'étais choquée. Là, j'étais choquée et franchement, j'étais soufflée. C'est-à-dire qu'il m'a dit ça et je me suis demandé si j'avais bien compris ce qu'il m'avait dit. Et ce qui m'a vraiment perturbée, c'est de voir que j'étais la seule qui avait l'air choquée de ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'autour de la table, les gens n'avaient pas l'air de mesurer la gravité de ce qu'il me disait. Ce qui fait que dans les minutes qui ont suivi, j'étais soufflée. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est dit dans les minutes qui ont suivi parce que j'arrivais pas à écouter tellement je me refaisais le film dans ma tête en me disant mais est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que vraiment il m'a dit quelque chose qui n'est pas si grave que ce que j'imagine. Et là effectivement quand on a fini l'émission en fait je suis sortie en trombe du plateau pour lui dire ce que je pensais de ce qu'il avait dit qui était juste abject et qui était indigne quoi. Donc je voulais lui dire aussi ce qui m'inspirait. Hein. Je lui ai dit que c'était une ordure et voilà je voulais lui témoigner ça parce que je trouve que c'était trop facile en fait qu'ils s'en sortent comme ça, comme il n'y avait pas eu de désapprobation de la part de l'animatrice et que tout le monde a, enfin bon, il y a quand même des chroniqueurs qui m'ont indiqué qu'ils étaient franchement frappés par ce qui s'était passé, mais sur le coup je me suis sentie vraiment seule, donc j'ai voulu dire en fait ce que signifiaient ces propos à mes yeux.
Et ce que vous décrivez qui se passe en plateau au moment où il profère ces propos-là, c'est une forme de sidération. Est-ce que vous construisez une forme d'armure contre cette violence-là qui peut arriver en plateau, mais qui en plus, vous est aussi arrivé beaucoup sur les réseaux sociaux? Il y a eu quand même des propos très très violents d'incitation à la violence à votre encontre sur les réseaux sociaux. Comment vous protégez de toute cette violence verbale que vous subissez au quotidien?
Je fais la différence en fait entre ce qui relève du débat public et ce qu'on peut m'opposer parce que aux yeux de certaines personnes je symbolise quelque chose et c'est pas tant moi que ce que je symbolise, que je représente parce que les gens qui me ressemblent sont totalement invisibilisés de la sphère publique. Donc là je le prends pas personnellement en fait. Généralement, c'est pas pour autant que c'est agréable, mais je ne le prends pas personnellement parce que ce sont pas des gens qui me connaissent. En revanche, quand je suis dans la rue, je suis en train de prendre un café à une terrasse et qu'on m'insulte, là c'est ma sphère privée en fait. Et là, j'accepte pas. Et de la même manière que quand on m'interpelle en me disant vous êtes issu de telle culture et qu'on m'associe à des choses qui sont de l'ordre de la trahison d'État, de l'abjection, du meurtre en fait collectif, là je peux pas l'accepter parce qu'en fait on est dans autre chose. Donc c'est ça la limite en fait pour moi, Je dis pas que c'est agréable hein, d'être insultée sur les réseaux sociaux, sachant que oui, les femmes sont insultées énormément sur les réseaux sociaux, et les femmes noires ont 84% de risque en plus d'être insultées par rapport aux femmes blanches. Donc clairement, je cristallise énormément de choses. En étant une femme noire et musulmane, je sais que je suis beaucoup plus insultée que n'importe quel autre type de personne sur les réseaux sociaux. Toutefois, j'en fais abstraction parce que je me dis que oui, c'est pas moi en fait, c'est pas moi la personne que je suis qui suis insultée parce que ces gens ne me connaissent pas. Et les gens qui me connaissent, en fait, même parmi ceux qui sont en désaccord, ne me parlent jamais dans ces termes.
Dans ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez « si je suis encore là en 2031 », vous, avec toute... peut-être je suis très sensible, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même énorme toute la violence dont vous faites l'objet au quotidien. Vous arrivez à vous projeter dans ce monde-là de prise de parole, d'occupation du terrain médiatique. Vous n'êtes pas épuisée par tout ça?
Alors, je ne suis pas épuisée. Mais parfois, je suis un peu lassée par un caractère un peu redondant. Donc, c'est pour ça aussi que j'essaie d'explorer d'autres formes d'expression. Que j'ai fait de la bande dessinée, que j'en ai fait une première qui était plus de la fiction en 2015. J'en ai fait une nouvelle avec Blachette cette année en 2020. Que j'ai écrit un spectacle musical pour le Cabaret Sauvage l'année dernière. En tout cas, si je suis encore visible en 2031, je pense pas que ce sera pour les mêmes formes d'intervention dans le débat parce que... C'est pas tant la violence que le caractère redondant, des actualités qui reviennent tout le temps, qui peut-être va me lasser. Mais c'est vrai que le niveau de violence est extrêmement important. Et puis moi, j'espère, moi, ce qui me gêne le plus quand même, c'est de me dire que depuis 10 ans, je suis quasiment la seule femme noire qui prenne la parole de manière récurrente dans le débat politique, tout simplement, qui fasse vraiment du commentaire d'actualité politique de manière éditorialisée. Donc, c'est ça, en fait, qui me dérange. C'est que je me dis, bah, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et moi, j'ai envie de passer la relève parce que, bah, j'ai envie de passer à autre chose à un moment donné de ma vie. Je ne ferai pas ça toute ma vie, mais et puis peut-être tout simplement que du fait des phénomènes de mode médiatique, je serai juste plus là pour des raisons X ou Y et ça ne me dérange pas parce que je sais que je suis capable de faire autre chose et que finalement ma présence c'est pas quelque chose de calculé. Elle est intervenue à un moment où j'ai été surprise, mais je m'en suis bien accommodée. Mais je m'accommoderai tout aussi bien du contraire. Et c'est vrai que le niveau de violence est important. C'est aussi un coût juste en termes de frais d'avocat. Enfin, c'est des trucs de temps aussi d'aller au tribunal, de porter plainte, etc., d'aller à la police. C'est beaucoup de temps et donc c'est du temps qui peut contribuer aussi à s'interroger. Mais voilà, je sais que je peux écrire aussi, continuer à écrire sous d'autres formes. Donc j'ai pas du tout certitude et je suis pas du tout certaine du fait qu'en 2031, je serai encore là pour m'exprimer sous la même forme.
Rokhaya Diallo publie M'explique pas la vie, mec, co-signé avec Blachette, aux éditions Marabule. Cet épisode de Fracas a été monté par Lucille Rousseau-Garcia, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts, Passage, notre podcast d'histoire vraie, Le Book Club sur la littérature ou Travail en cours sur les bouleversements du monde du travail. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club louismedia.com/club. À très vite.
Bonjour, je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple, comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants. Fête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.